France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le scandale de la banque Ambrosiano. En 1982, Roberto Calvi, banquier italien de la haute finance, sorte de Rothschild de la péninsule, est retrouvé pendu sous un pont à Londres. On l'appelait le banquier de Dieu, en raison de ses relations plus qu'étroites avec le Vatican. Il laisse derrière lui plus de 700 millions de dollars de déficit. C'est un record mondial, un krach aussi spectaculaire qu'inattendu. Car dans les années 70, la banque Ambrosiano avait connu une croissance fulgurante. L'établissement offrait une image solide, conquérante, avec ses nombreuses ramifications à l'international. En réalité, elle cachait des opérations financières de plus en plus opaques qui mèneront le banquier à sa perte. L'histoire de la banque Ambrosiano relève du roman noir. On y croise des prélats aux pratiques douteuses, des banquiers véreux, une loge maçonnique illégale, les services secrets, l'ombre de la mafia, des tentatives de meurtre et des morts violentes, rarement accidentelles. Notre invité aujourd'hui, Véronique Dunoël. De Noël, éditeur, spécialiste du renseignement et auteur du livre « Les espions du Vatican, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours », livre publié en 2023 au Nouveau Monde Éditions. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Rambert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
« 18 juin 1982, Londres. Au petit matin, un employé des postes se rend au travail à pied, comme d'habitude. En traversant le Blackfriars Bridge, le pont des Frères Noirs, celui qui enjambe la Tamise au niveau de la City, il remarque une corde orange suspendue à un échafaudage. Il se penche par-dessus le bord et jette un coup d'œil en contrebas. Et là, il découvre un corps au bout de la corde. C'est un homme d'une soixantaine d'années en costume gris. L'eau lui lèche les mollets. Le courant rend difficile l'accès au corps par les forces de la police filiale.
Nous sommes face à une affaire vraiment digne d'un film d'Hitchcock. Scotland Yard a repêché dans la Tamise il y a plusieurs heures le cadavre d'un homme d'âge moyen. Il semble difficilement identifiable, car il serait resté quelque temps dans l'eau, peut-être 3 ou 4 jours, peut-être davantage. Mais ce qui a mis les enquêteurs en alerte, c'est qu'on a trouvé sur le corps de l'inconnu un passeport italien au nom d'un certain monsieur Gian Roberto Calvini. À ce stade, ni Scotland Yard, ni nos autorités consulaires ne se prononcent de manière formelle sur l'identité du cadavre.
Le pendu a les poches particulièrement lestées. En plus du passeport, on y trouve surtout 12 kilos de pierre et pas mal d'argent liquide en différentes devises. Il faut peu de temps aux enquêteurs pour établir qu'il s'agit de Roberto Calvi, un banquier italien de stature internationale, disparu de la péninsule 8 jours plus tôt. Roberto Calvi est le président de la première banque privée italienne, la Banque Ambrosiano, qui vient de subir un krach retentissant de 723 millions de dollars. Pour Scotland Yard, la chose est entendue. Calvi trempait dans les affaires louches et fréquentait toutes sortes d'hommes dangereux. Il s'est mis dans une situation inextricable et il s'est suicidé. Bien. Mais en Italie, on n'y croit pas. Le bâtonnier de Milan, notamment, est sceptique.
Suicide pour le moins étrange. C'était un homme mystérieux. Il aura été mystérieux dans la mort. Je pense, comme tout le monde ici au tribunal, que plutôt qu'un suicide spontané, on a suicidé Calvi.
Dans l'affaire Calvi, pas besoin d'avoir des tendances complotistes pour douter. Chercher à comprendre qui aurait pu tuer le banquier. C'est ouvrir la boîte de Pandore dans l'Italie des années 80. Mafia, Vatican, services secrets, loge maçonnique sauvage. Vous avez l'impression d'être devant le film Le Parrain ? Normal. C'est précisément Roberto Calvi qui a inspiré à Francis Ford Coppola le personnage de Frédéric Kainsick, le comptable du Vatican retrouvé pendu sous un pont de Londres dans le troisième volet de la saga. Et ici, en termes de scénario, comme souvent, la réalité a largement autant de talent que la fiction. Calvi a 27 ans quand il intègre la banque Ambrosiano comme simple employé. Nous sommes en 1947 et l'Ambrosiano, c'est la banque catholique par excellence. De la direction jusqu'aux salariés, tout le monde s'efforce de témoigner de sa fidélité aux principes de l'Église. Et pour être client, il faut présenter un certificat de baptême et de bonne conduite signé par sa paroisse. Laïcité connaît pas. C'est surtout une banque réputée, mais gérée par des dirigeants sans dimension. Le jeune Calvi, lui, est d'une autre trempe. Avec sa moustache, ses éternels costumes gris, son air taciturne, il est quasiment transparent, certes. Mais c'est un travailleur acharné, et surtout dévoré d'ambition. Un catholique peu pratiquant, avec des idées neuves pour ce qui est de la spéculation et des produits financiers. Les années passant, il gravit rapidement les échelons et s'installe dans une confortable vie bourgeoise, mais aussi grise que ses costumes. En Italie, c'est l'époque du boom économique. Les usines tournent à plein régime, le PIB s'envole et le pays attire les capitaux étrangers. Alors Robert Calvi veut sa part du gâteau. Mais le banquier complexé n'a pas le bon nom, pas les bonnes connexions pour intégrer le Gotha de la finance milanaise. Mais à la fin des années 60, il va croiser un banquier sicilien surdoué qui va lui permettre de briser le plafond de verre. Il s'appelle Michele Sindona. Il répond à une interview depuis sa prison américaine en 1982.
J'ai connu Calvi vers le milieu des années 60, parce que mon beau-père, l'avocat Magnoni, me l'a présenté. Il m'a dit que Calvi voulait me connaître parce qu'il était privatiste, qu'il appréciait ce que je faisais, et parce qu'établir des relations entre la banque Ambrosiano et ma banque, la banque privée italienne, l'intéressait. Je lui ai dit très bien, Calvi est venu me voir, j'ai eu un premier entretien avec lui, puis un autre. Je connaissais l'Ambrosiano, je connaissais son président, je savais qu'il s'agissait d'une banque de prestige national, sinon international, et je considérais qu'une union entre le privatisme italien qui était, excusez l'expression, mon dada, aurait pu conduire à des résultats intéressants pour l'initiative privée.
Alors, d'un côté, un Milanais sombre et taiseux, de l'autre, un Sicilien plein de bagou, flamboyant. En vérité, ils se ressemblent, car ce sont deux financiers sans scrupules qui se rencontrent. Sindona explique à Calvi que depuis le milieu des années 60 et l'élection de Paul VI, il a la main mise sur les investissements de l'Église. Le Vatican a sa propre banque, l'IOR, Institut pour les œuvres de la religion, un établissement unique en son genre. Protégé par le plus secret absolu bancaire, ses transactions échappent à tout contrôle. Les voies de l'IOR sont impénétrables. C'est une véritable boîte noire en plein cœur de Rome. Et puis les services de Sindona vont bien au-delà de la simple activité de conseil. Il peut carrément signer des opérations sans rendre de compte à aucun conseil d'administration ni aucun actionnaire. Il est en ligne directe avec le pape. Calvi est fasciné. Lui qui passe son temps à jouer selon les règles de l'État italien et rêve d'avoir les coudées franches, pensez donc. Au début des années 70, les deux banquiers entament alors une collaboration. Ensemble, ils modernisent l'Ambrosiano et mettent à profit la fuite de capitaux du Vatican dans des paradis fiscaux. En retour, ils profitent du prestige associé au Saint-Siège pour obtenir d'énormes prêts à leur banque et de généreuses commissions pour eux-mêmes. L'IOR devient ainsi le premier actionnaire de l'Ambrosiano. Pour faciliter les transactions entre la banque et le Vatican, Calvi peut compter sur le président du IOR, un certain Monseigneur Marcinkus, un archevêque américain originaire de la banlieue de Chicago, la même qu'Al Capone, comme il adore le raconter. Et taillé comme un joueur de football américain, à tel point qu'il joue les gorilles pour le pape lors de ses déplacements. La carrière de Roberto Calvi décolle. En 1971, il passe directeur général et sa vie change du tout au tout. Il mène grand train, s'offre une villa dans les Bahamas et se retrouve convié dans les fêtes de la Jet Set aux quatre coins du globe. Mais il voit encore plus grand. D'autant qu'au mi-temps des années 70, un deuxième personnage clé fait son entrée dans sa vie par l'intermédiaire de Michele Sindona, Licio Geli. Sindona l'évoque dans la même interview.
J'ai présenté Calvi à Geli parce que, quand s'est mis en place un processus d'internationalisation de la banque, j'ai considéré que l'Amérique du Sud était un élément important pour la banque Ambrosiano. à la fois pour son introduction sur le plan international et à la fois parce que la banque Ambrosiano, qui était une banque privée catholique, en Amérique du Sud aurait pu, en dépensant bien l'argent, c'est-à-dire en l'investissant dans des activités saines, éviter le chaos qui mène au communisme.
Arrêtons-nous sur la figure de Licio Gelli. Il dirige, dans les années 70, une loge maçonnique, devenue un réseau de pouvoir parallèle, mêlant hommes politiques, militaires, chefs d'entreprise, magistrats et responsables des services secrets. Son nom, la loge P2, pour Propaganda 2. L'esprit de la P2 n'a plus grand-chose à voir avec l'esprit de la franc-maçonnerie. Elle est même en marge, illégale. Gelli la met au service d'une idéologie anticommuniste et fasciste, qui vise au rétablissement d'un régime autoritaire en Italie, et qui entend soutenir les dictatures militaires d'Amérique du Sud. Pour mener à bien ses projets politiques, Roberto Calvi, alors banquier en pleine ascension, serait une recrue de choix pour Gelli. Calvi se sent sûrement très flatté. Gelli est le genre d'homme qu'il rêve d'être, et il est probablement proche de lui, idéologiquement. Le banquier entrevoit tout de suite comment l'appui et la protection de la P2 peut favoriser sa carrière et lui faire gagner cette respectabilité à laquelle il aspire, maladivement. Et puis, pour un financier, dans l'Italie des années de plomb marquée par la violence politique et une réelle possibilité de victoire des communistes, mieux vaut avoir Licio Gelli comme ami que comme ennemi. Alors, Calvi ne résiste pas et intègre la loge P2. En 1975, grâce à ses amis puissants, il atteint le sommet de sa carrière. Il est nommé président de la Banque Ambrosiano. Au même moment, l'empire financier de son collègue Michele Sindona est en train de s'effondrer. Ses banques italiennes et américaines connaissent de graves difficultés et font faillite l'une après l'autre. Et le banquier tombe pour fraude et mauvaise gestion et passe du statut de magicien de la finance à celui de délinquant financier. Sindona sur la touche, Roberto Calvi devient le premier interlocuteur de la Banque Vaticane, le seul et unique banquier de Dieu. Mais en héritant du prestige, il récupère également les inquiétants clients de Sindona, parmi lesquels des membres de la mafia italo-américaine, soucieux de trouver des banques lessiveuses pour blanchir leurs millions d'argent sale. Et il se trouve que Calvi n'est pas regardant sur la provenance des fonds. Il développe un réseau bancaire international de plus en plus étendu et de plus en plus complexe. Un journaliste tente de faire le point sur ce qu'il est convenu maintenant d'appeler l'Empire Ambrosiano.
Une holding au Luxembourg avec 15 filiales à travers le monde. Des banques en Suisse, en Amérique latine, aux Caraïbes. Et une compagnie financière contrôlant 10 compagnies d'assurance. Un empire bancaire et financier construit en moins de 10 ans.
Une fois assis dans le fauteuil du président, Calvi se retrouve soumis à une pression constante de la part de Licio Gelli. L'heure est revenue de renvoyer l'ascenseur. Usant subitement du chantage, il pousse Calvi à investir dans des projets miniers, immobiliers, bancaires et même dans le trafic d'armes. Et la dette n'est évidemment jamais soldée. Le grand maître de la loge a toujours un service à demander. Sauf qu'au lieu de gagner de l'argent, l'Ambrosiano commence à en perdre. Beaucoup. Mais plutôt que de risquer sa place, Roberto Calvi prend de plus en plus de risques pour combler les trous dans la comptabilité. Il jongle entre banque Vatican, institutions étrangères et sociétés écrans. Certaines de ces sociétés, et c'est là le coup de maître du banquier, utilisent les prêts reçus par l'Ambrosiano pour acheter des actions de la banque elle-même. Résultat, la valeur de ces titres se retrouve artificiellement gonflée. Bref, les affaires semblent florissantes. En réalité, c'est tout l'édifice qui est en péril. Et Calvi a commencé une fuite en avant. Alors, ce qui devait arriver arrive. Le premier coup dur a lieu au début de l'année 81. Les enquêtes du grand juge milanais Gerardo Colombo le mènent jusqu'à Licio Gelli. Il raconte dans le documentaire Le dossier Berlusconi.
Nous avons organisé une perquisition sur son lieu de travail et découvert des cartes. C'était le 17 mars 1981 et il s'agissait des cartes des membres de la loge. Nous sommes restés bouche bée devant cette liste de près de 1000 personnes, parmi lesquelles des ministres, des parlementaires, un nombre incroyable d'employés des services de sécurité, des services secrets.
La révélation de l'existence de la loge P2, véritable état dans l'État, et de la liste de ses membres provoque un séisme en Italie. Et les autorités resserrent leur étau autour de Calvi. D'autant que Lambrosiano est déjà dans le collimateur de la Banque d'Italie depuis 3 ans. Pourquoi son nom ressort-il dans le dossier P2 ? À qui prête-t-il ses fonds ? Toute cette mauvaise publicité empêche le banquier d'attirer de nouveaux investisseurs au moment précisément où il en aurait le plus besoin. Et c'est comme ça que Lambrosiano s'enfonce dans les dettes. Lorsque Licio Gelli, en fuite à l'étranger, sollicite Calvi pour une énième faveur, le banquier implore « Ce n'est plus possible, il ne peut plus payer !» Alors que le simple mortel s'en remettrait à Dieu pour sortir d'une si mauvaise passe. Roberto Calvi, lui, va se raccrocher à son représentant sur Terre, le pape. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire du scandale de la Banque Ambrosiano.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En 1981, Lambrosiano est encore la plus grande banque privée d'Italie. Mais désormais, sans le soutien de son ancien mentor, Michele Sindona, emprisonné aux États-Unis, son président, Roberto Calvi, sent le sol se dérober sous ses pieds. Lâché par Licio Gelli, le grand maître de la loge P2 à qui il avait prêté allégeance, il a besoin à tout prix de rester dans les bonnes grâces du Vatican. Depuis 1978, il y a un nouveau locataire au Saint-Siège, Jean-Paul II. Son prédécesseur, Jean-Paul Ier, voulait-il faire le ménage parmi les banquiers véreux qui gravitaient autour de l'IOR ? Difficile de dire si les deux choses sont liées. Mais toujours est-il qu'il meurt après 33 jours de pontificat. Jean-Paul II choisit de reconduire tout ce beau monde dans ses fonctions. L'archevêque Marcin Kust reste l'un de ses hommes de confiance, car le souverain pontife a compris que les biens terrestres font tourner le monde bien plus que la bonne parole prêchée. Il a besoin de liquidités pour son grand projet politique, la lutte contre le communisme. En particulier dans son pays, la Pologne, où il est immensément populaire. Il a aussi besoin d'un banquier, assez habile pour faire transiter discrètement ses fonds de l'autre côté du rideau de fer. Alors, qui de mieux que Roberto Calvi, aux abois depuis le scandale de la loge P2 ? C'est ainsi que le banquier de Dieu se retrouve à financer le syndicat polonais Solidarnosc, mais aussi des guérillas au Nicaragua ou au Panama. En retour des services rendus, Lambrosiano peut continuer à utiliser l'argent et la réputation de l'IOR. Mais un événement en retentissement planétaire vient encore rebattre les cartes. Le 13 mai 1981, Jean-Paul II est victime d'une tentative d'assassinat place Saint-Pierre à Rome.
17h20, cet après-midi, comme c'est son habitude depuis 3 ans, le pape Jean-Paul II est descendu dans la foule de la place Saint-Pierre pour saluer les milliers de pèlerins fidèles à l'audience générale du mercredi après-midi. Jean-Paul II est debout dans sa Fiat décapotable, cette voiture dont il se sert pour ses déplacements dans Rome. Il est en ce moment précis placé sous la double protection des services de sécurité italiens et des agents officiels du Vatican. Les premiers sont armés, les autres, des gardes suisses, ne le sont pas. Image classique de gestes répétés dans 17 pays de 4 continents. Jean-Paul II embrasse les enfants, serre les mains, se laisse prendre en photo. Et puis soudain, c'est le drame. La voiture du pape démarre en trombe vers la cité du Vatican. Derrière, les carabiniers chargés de la sécurité ne peuvent que couvrir la fuite de la voiture. Regardez bien ce document. Le pape, blessé, est couché à l'arrière du véhicule. Autour de lui, son secrétaire personnel et son valet de chambre retiennent le souverain pontife.
C'est un jeune turc d'une 20aine d'années qui a tiré sur le pape, un certain Ali Akça. Mais qui sont les commanditaires de l'attentat? Aucune preuve formelle, mais une hypothèse retenue comme plausible, le Kremlin pourrait être derrière cette tentative d'assassinat. Alors, Roberto Calvi s'enfonce dans la crainte et la paranoïa, car il est un rouage central de ce soutien au culte aux forces anticommunistes. Si le pape, avec son niveau de protection, peut être attaqué en plein jour, au milieu de la foule, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver à lui? Le banquier sait bien qu'il s'est compromis avec trop de gens puissants et dangereux, et il n'a désormais plus personne pour le protéger. Alors, depuis quelque temps déjà, il se sent en danger. Il ne se déplace qu'avec ses gardes du corps et en Mercedes blindée. Il a fait équiper son bureau et son appartement de systèmes anti-écoute. Et il ne se sépare jamais d'une sacoche pleine de secrets, toujours plus lourde. Le 20 mai 81, on frappe à sa porte. Ce n'est ni le KGB, ni la mafia, ni un des sbires de Licciugelli qui vient le cueillir. Non, c'est la police. Roberto Calvi est arrêté pour exportation illégale de capitaux à l'étranger. En réaction, la bourse de Milan s'effondre de 20%. Calvi, lui, est placé à l'isolement en attente de son procès. Sa veuve, Clara Calvi, témoigne un an après sa mort.
Quand ont commencé les ennuis pour votre mari? Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il était différent, inquiet?
Bien sûr que je sais quand ça a commencé. Nous avons toujours reçu des menaces de mort. Cela arrive, je pense, à toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau. Mais les vrais ennuis ont commencé au début de 1981. Parce qu'il y avait un procès en vue, un procès pour lequel il était complètement innocent. Quand il était en prison, il en a eu assez de payer pour les autres. Je ne savais rien de ces histoires, mais je le voyais inquiet. Il était désespéré. Il savait qu'il allait être condamné à une peine de prison.
Même à l'isolement, Roberto Calvi reçoit des pressions. Il cherche aussi à mettre ses partenaires devant leurs responsabilités. Il fait notamment passer un billet à Mgr Marcus Parsinkis où il écrit « Ce procès s'appelle IOR ». Autrement dit, ce n'est pas que lui qu'on doit juger. La Banque Vaticane, ses complicités, sa protection sont aussi sur la sellette. En détention, le banquier tente de mettre fin à ses jours. À moins qu'il ne s'agisse d'une mise en scène. Le 22 juillet, le tribunal de Milan le condamne en tout cas à 4 ans de prison et à une lourde amende. En attendant l'appel, il est libéré sous caution. Roberto Calvi sait bien que les hommes de la P2 n'ont pas l'intention de rembourser les sommes qu'ils ont empruntées et que la mafia a effectué d'énormes dépôts que la banque n'est pas en mesure de restituer. Mais il faut garder la face. Peu après sa sortie de prison, comme si de rien n'était, Calvi reprend place derrière son bureau et se met en quête de nouveaux investisseurs. Il se rapproche notamment d'un personnage douteux, encore un, qui va tenir un rôle considérable dans la dernière année de sa vie. Il s'appelle Flavio Carboni. Un homme d'affaires sarde, au bras long, connecté au monde politique et à la criminalité organisée à Rome. À ses côtés, Calvi intensifie ses activités de blanchiment d'argent. Peine perdue. Malgré les gesticulations désespérées de son président, la situation financière de la banque continue de se dégrader, tout comme sa légitimité. Début 82, les autorités commencent à enquêter sur ses liens avec la mafia et la franc-maçonnerie illégale. En mars de la même année, le conseil d'administration de Lombroziano, jusque-là d'une fidélité absolue au chef, lui retire sa confiance. C'est le vice-président de la banque, Roberto Rossone, qui prend les rênes. Parmi ses premières mesures, bloquer les crédits sans garantie accordés à tour de bras à Flavio Carboni, le nouvel ami du patron. Et la sanction ne tarde pas à tomber. Le mois suivant, Rossone, échappé d'extrémis à une tentative d'assassinat par balle dans les rues de Milan. Pour lui, le nom du commanditaire ne fait pas de mystère. Et il accuse implicitement, mais frontalement, Roberto Calvi devant la presse.
Les indices n'accusent pas un de mes subordonnés. J'ai dit, les indices n'accusent pas un de mes subordonnés. C'est tout.
Alors, Sode a de quoi voir rouge. Alors qu'il prend la fuite, le tireur est abattu par la police. Et on retrouve sur lui une boîte d'allumettes où est griffonné le numéro d'un associé de Flavio Carboni. Au printemps, la rumeur se propage dans Milan. La banque Ambrosiano ne paie plus. L'établissement n'est plus capable d'honorer les dettes de ses filiales. Les créanciers paniquent. Pour tenter de les calmer, Calvi n'a que des lettres de patronage signées par le Vatican, c'est-à-dire des garanties de couverture de la dette dans lesquelles l'IOR reconnaît posséder des sociétés offshore étrangères fortement endettées auprès de l'Ambrosiano. Mais ces lettres relèvent de l'engagement moral et au fond ne valent pas grand-chose. D'autant que l'IOR possède une déclaration signée par Calvi où il assume l'entière responsabilité des opérations passées et futures de sa banque. Bref, tout le monde se tient par la barbichette. Sauf qu'on sait déjà qui va perdre à ce petit jeu-là. Lorsque Roberto Calvi demande à Marcinkus de renouveler les lettres qui expirent en juin 82, il refuse. Le compte à rebours est donc commencé. S'il veut encore se sauver, Calvi doit trouver d'urgence d'énormes sommes. 300 millions de dollars doivent être remboursés avant la fin du mois de juin 82, à la fois à de grandes banques institutionnelles, au Vatican et à la mafia. Mais c'est déjà trop tard. Le 31 mai, la Banque d'Italie le somme de faire la lumière sur les finances de Lombroziano. Le trou est rendu public, 723 millions de dollars. À la Bourse de Milan, c'est le krach historique, dit de Lombroziano. Le 5 juin, acculé, le banquier de Dieu écrit une lettre de supplication directement au pape.
Sainteté, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi ces jours-ci. Et j'ai compris qu'il n'existe qu'un seul espoir pour tenter de sauver la situation effroyable dans laquelle je me trouve impliqué avec l'IOR, au sein d'une série d'événements tragiques qui ne cessent de se détériorer et qui pourraient finir par nous engloutir irrémédiablement. J'ai longuement réfléchi, Sainteté, et j'en suis venu à la conclusion que vous êtes le dernier espoir. Sainteté, c'est moi qui, sur mandat précis de vos éminents représentants, ai accordé d'importants financements en faveur de nombreux pays et associations politico-religieuses, tant à l'Est qu'à l'Ouest. C'est moi qui, de concert avec les autorités vaticanes, ai coordonné dans toute l'Amérique centrale et méridionale la création de nombreuses entités bancaires, principalement dans le but de contrer la pénétration et l'expansion d'idéologies pro-marxistes. Et c'est moi, enfin, qui aujourd'hui suis trahi et abandonné précisément par ces mêmes autorités auxquelles j'ai toujours témoigné le plus grand respect et la plus entière obéissance.
Cause toujours, aucune main tendue du pape. Roberto Calvi est un homme seul. Dans peu de temps, il doit se présenter à son procès en appel. Il sait que sa situation judiciaire s'est considérablement compliquée. Alors il décide de partir précipitamment. Le 10 juin au matin, son chauffeur se présente à son domicile romain. Mais il ne trouve personne, à part un lit à peine défait et un mot griffonné d'une écriture incertaine. Son patron y explique que s'il ne se sent pas bien et qu'il est rentré à Milan plus tôt que prévu... Bon, suspect quand même. Calvi ne se déplace jamais sans son escorte. Alors très vite, l'alerte est donnée et la nouvelle de la disparition du plus puissant banquier italien fait le tour du monde.
Roberto Calvi a disparu de son appartement à Rome.
Un nouveau chapitre dans ce qui s'annonce comme un vaste scandale bancaire impliquant le Vatican.
On ne sait pas où se trouve le président de la Banque Ambrosiana. Peut-être s'est-il enfui. On est sans nouvelles de lui depuis 2 jours. Roberto Calvi ne peut de toute façon pas quitter légalement l'Italie, car son passeport lui a été retiré il y a quelques mois.
Pour organiser sa cabale, Roberto Calvi se tourne vers celui qui a su se rendre indispensable ces derniers mois, Flavio Carboni. Pour lui faire passer les frontières, l'homme d'affaires fait lui-même appel à l'un de ses amis contrebandiers, Silvio Vitor. En sa compagnie, le banquier se lance dans un étrange road trip avec un faux passeport au nom de Calvini. Prêt à tout pour quitter le pays au plus vite, il rejoint d'abord Trieste, près de la frontière yougoslave, puis l'Autriche, où il reste 2 jours. Rien ne laisse penser alors qu'il veuille mourir. Il est même loquace et semble encore combatif. Il laisse entendre qu'il se prépare à rencontrer des personnes importantes. Mais est-il dans les mains d'amis ou de criminels ? Flavio Carboni, qui les a rejoints en Autriche, se montre très directif. Le trio avait choisi la Suisse comme destination finale pour le président de l'Ambrosiano. Eh bien, changement de programme. Ce sera Londres, en avion privé. Ils atterrissent dans la capitale britannique le 15 juin en fin de journée. Les derniers jours de la vie de Roberto Calvi sont entourés de mystères. Une chambre a été réservée pour lui et Silvio Vitor au Chelsea Cloisters, un hôtel sordide, ce qui aurait mis Calvi dans une colère noire. Pourtant, par peur d'être reconnu, il ne sort pas de sa chambre. Le 17 juin déjà, la mort rôde autour de l'Ambrosiano. Au siège de la banque, ses dirigeants virent Calvi Manu Militari, déchu de ses fonctions. Ce Calvi injoignable depuis des jours. Il vote alors l'autodissolution et la mise sous tutelle de l'établissement. À l'issue de cette réunion de crise, la secrétaire personnelle de Calvi, fidèle parmi les fidèles et peut-être celle qui en savait le plus, se défenestre, comme le relate le correspondant à Rome de RTL.
La secrétaire de Roberto Calvi, le banquier disparu, n'a pas résisté au choc du déshonneur. Et s'est suicidé hier soir en se jetant par la fenêtre de son bureau, situé au 4e étage de la banque. Mais avant de se supprimer, elle a écrit une lettre adressée à celui qui fut durant plus de 15 ans son patron, une sorte de j'accuse impitoyable. « Soyez maudits, écrit-elle, pour tout le mal que vous avez fait à ceux qui travaillaient dans cette banque et qui en étaient fiers. » Ce geste macabre, le destinataire ne l'apprendra aujourd'hui qu'en lisant les journaux, cachés quelque part à l'étranger, car il ne fait aucun doute maintenant pour les enquêteurs que Roberto Calvi a cherché refuge en Suisse, aux États-Unis ou ailleurs.
D'après les dires de Silvio Vitor, Roberto Calvi reçoit des nouvelles catastrophiques de Milan. Le 18 au soir, entre 23h30 et 1h du matin, alors que Carboni et Vitor affirment avoir laissé sans surveillance, il quitte sa chambre. De gré ou de force ? Toujours est-il qu'on le retrouvera pendu le lendemain matin. Sa femme et son fils refusent les conclusions de la police britannique. Il mandate rapidement des investigations privées pour contester la thèse du suicide. De fait, il est impensable qu'un homme de plus de 60 ans, peu athlétique, souffrant de vertige et craignant d'être reconnu, ait marché 5 km dans la nuit londonienne et joué les équilibristes sur un échafaudage qui plus est avec des kilos de pierre dans les poches. Franchement. En 2005, à la lumière de nouveaux indices, s'ouvre le procès de 5 personnes liées à la criminalité organisée, accusées de l'assassinat de Calvi, dont Flavio Carboni et Silvano Vitor. Tous sont acquittés pour manque de preuves. Quant à l'Ambrosiano, elle est mise en liquidation en août 82. Les liquidateurs de la Banque d'Italie demandent alors à l'archevêque Marcinkus de régler la dette des sociétés offshore contrôlées par l'IOR. Fin de non-recevoir du Saint-Siège. Se défendant de toute responsabilité dans cette affaire, la Banque du Vatican paiera tout de même 250 millions de dollars. Officiellement, une contribution volontaire, ou alors un geste de pure charité chrétienne.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Ambrosiano, dont nous parlons avec notre invité Yvonique de Noël. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur, spécialiste du renseignement et auteur du livre « Les espions du Vatican, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours », ouvrage publié en 2023 au Nouveau Monde Édition. Revenons rapidement sur la figure de ce Roberto Calvi. De quel bois est-il fait, selon vous ? Je veux dire, Est-ce que c'est un vrai criminel financier ou est-ce que c'est un ambitieux qui s'est fait dépasser par les événements ?
C'est surtout un ambitieux, c'est quelqu'un qui effectivement était un petit peu plus hors des clous que la plupart des financiers italiens de l'époque qui voulaient vraiment faire grandir sa banque, mais bizarrement il est tombé sous la coupe de plusieurs personnages, en premier lieu Michele Sindona, qui lui a appris entre guillemets à transgresser, et puis ensuite surtout Licio Gelli. Ce qui est incroyable, c'est que sous le règne de Calvi, la Banco Ambrosiano a creusé et creusé un trou qui est devenu gigantesque parce qu'il acceptait ce qu'on lui demandait de faire. Mmh. On lui demandait des transferts et des interventions pour le Vatican, il le faisait. On lui demandait des interventions en Amérique du Sud pour soutenir la lutte anticommuniste, il le faisait. Alors évidemment, il y avait également des pertes en ligne, hein. Il y avait des gens qui s'en mettaient un petit peu dans les poches au passage. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, il a repris et laisser se poursuivre un système qui avait mené Michele Sindona à sa perte.
Ouais. Mais il y avait peut-être aussi une adhésion politique de la part de Calvi à tous ces gens-là profondément anticommunistes. D'ailleurs, on s'aperçoit en racontant cette histoire que c'est aussi une histoire de la guerre froide.
Bien sûr. Roberto Calvi respecte l'autorité. Il y a deux autorités fondamentales dans cette histoire. D'abord, celle du pape, à travers son représentant, l'archevêque Marcinkus, qui dirige l'IOR, et puis Licio Gelli, qui est une espèce de grand maître marionnettiste de la politique italienne. Il contrôle à la fois des militaires, des prélats, les services secrets, les milieux d'affaires, voilà, il semble tout manipuler jusqu'à sa chute.
Avez-vous une conviction pour ce qui concerne la mort de Calvi, les raisons de sa mort, ses commanditaires, ses assassins, puisqu'il est évident qu'il ne s'est pas suicidé?
Oui, ce n'est pas un suicide, ça a été d'ailleurs acté par la justice italienne. Alors, il y a ceux qui l'ont tué, c'est-à-dire vraisemblablement des mafieux, et puis il y a ceux qui ont commandité son assassinat. Un indice, vous avez parlé de cette fameuse mallette qui ne le quittait pas, dans laquelle il avait ses archives les plus sensibles. Après la mort de Calvi, la mallette prend un avion privé et arrive en Suisse entre les mains de Licio Gelli.
Ah,
voilà,
d'accord.
Donc ça amène quand même une piste de réflexion intéressante.
Alors, on va s'intéresser, on parle de Marcinkus, à l'IOR. Alors, quand cette institution a-t-elle été créée et pourquoi ?
Elle a été créée en 1942, donc on voit bien le contexte. La préoccupation majeure du Vatican à cette époque-là, c'est de sauvegarder son patrimoine financier en toute hypothèse. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Italie est encore mussolinienne, mais un an plus tard, c'est l'Allemagne qui occupera Rome. Et donc, le but principal des hommes du Vatican, c'est de pouvoir effectuer librement des opérations financières. Il faut savoir que le Vatican, à l'époque, c'est assez incroyable, mais c'est la seule entité en Europe qui arrive à commercer et à échanger financièrement librement, aussi bien avec les forces de l'Axe qu'avec les Alliés. Donc on peut recevoir des virements d'Allemagne, par exemple, et envoyer de l'argent aux États-Unis. C'est la seule entité. Et donc, avoir une banque pour le Vatican, c'est un outil magique. C'est-à-dire qu'on ne doit plus rendre de compte à personne et il y a une opacité totale de ce qu'on fait financièrement.
Alors, est-il vrai, par rapport à cette opacité, que l'IOR a été une grande lessiveuse de l'argent sale, notamment, et en particulier, de celui de la mafia ?
Alors, l'IOR est d'abord un outil utilisé pour ce qui est un véritable sport national en Italie, c'est-à-dire l'évasion des capitaux. Il faut savoir qu'après la fin de la guerre, a été instauré le contrôle d'échange. Pour permettre à l'économie italienne de se rétablir, on empêche les riches Italiens de placer leurs économies à l'étranger. Et bien évidemment, dans ces cas-là, il y a des fuites. Et l'IOR propose une de ces fuites, notamment aux riches milliardaires catholiques. Ils arrivent avec des valises de billets au Vatican, ils les déposent, et puis le lendemain, l'argent est disponible en Suisse, moyennant une commission. Donc ça, c'est la première fonction externe, si j'ose dire, de l'IOR. Et il est vrai qu'ensuite, à l'époque de Michele Sindona, pas avant, l'IOR va également proposer des services de blanchiment qui vont devenir de plus en plus importants. Après la chute de Sindona, c'est la Banque du Vatican et la Banco Ambrosiano qui reprennent, si j'ose dire, le système. Et puis ce système explose. Et la mafia perd beaucoup d'argent dans cette histoire.
Et alors lui, Jean-Paul II, en profite parce que c'était quasiment le pape le plus politique du XXe siècle, pour financer la révolution, on va dire, libérale de Solidarność contre le régime communiste de Pologne. Donc ces institutions financières pour Jean-Paul II étaient très importantes, j'imagine.
Oui, Jean-Paul II est très intelligent. Il arrive au Vatican. Alors effectivement, il n'a pas été préparé à être pape, mais il a quand même bien pris les choses en main et il voit très bien qui est Marcinkus et ce qu'il fait. Il y a des accusations, il y a des dossiers d'accusation. Le précédent pape était en train d'étudier un dossier qui visait notamment à virer Marcinkus. Jean-Paul II décide de n'en rien faire. D'abord, parce qu'il s'entend bien avec Marcinkus, il y a une bonne relation personnelle. Et puis surtout, parce que Jean-Paul II, dès son arrivée, sait que la mission principale de son pontificat va être la lutte contre le communisme et pas seulement en général, mais également en particulier en Pologne. Et pour ça, pour ces opérations spéciales que je détaille dans mon livre, il va avoir besoin de beaucoup d'argent et de beaucoup d'argent clandestin. Donc garder Marcinkus, c'est une façon de dire, bon, le système n'est peut-être pas génial, peut-être pas très éthique, mais après tout, à la guerre comme à la guerre, on a besoin de munitions. Donc pour l'instant, on laisse les choses en l'état.
France Inter. Sensible.
Ivanique de Noël, la mort de Jean-Paul Ier, c'est un peu comme la mort de Kennedy, peut-être qu'on ne saura jamais la vérité. Enfin, il y a peut-être des hypothèses, est-ce qu'à votre avis c'est lié à toutes ces affaires ?
Alors, il y a eu un livre d'un journaliste américain qui a défendu la thèse assez convaincante en première analyse que Jean-Paul Ier avait été assassiné justement parce qu'il s'apprêtait à faire un grand ménage au Vatican et à virer des gens comme justement Marcinkus, dont il constatait et déplorait les malversations. Sauf que, alors moi j'ai tout à fait cru à cette thèse jusqu'à ce qu'un autre journaliste qui n'était pas du tout un journaliste béni oui du Vatican soit autorisé à faire une contre-enquête et il montre quand même que la thèse du premier auteur, David Yalop, était assez fragile. Et en réalité, surtout, il trouve que Jean-Paul Ier était dans un état de santé épouvantable. Il avait de gros problèmes circulatoires et personne ne savait rien au Vatican de son état de santé. Et il n'a tout simplement pas été suivi correctement comme il aurait dû l'être dans son état. Et donc il est malheureusement probable qu'il est mort de défaut de soins, si j'ose dire, ce qui est incroyable.
Mais pas volontaire.
Non, tout à fait. Tout simplement, un certain nombre de défaillances de gens qui, autour de lui, n'ont pas été, pas effectué correctement leur mission.
Et l'attentat, ou tentative d'attentat contre Jean-Paul II, cela dit, il s'en est jamais vraiment remis de l'attentat Jean-Paul II physiquement. Il était vraiment diminué pour toute la fin de son pontificat. Est-ce que cet attentat peut être lié aussi aux affaires qu'on a racontées ?
Alors là, il y a une possibilité, parce qu'effectivement, vous avez évoqué la piste russe qui a été beaucoup invoquée à l'époque. Avec le recul, lorsqu'il y a une ouverture des archives dans les pays de l'Est, bon, aujourd'hui en Russie, les archives, par définition, sont plus accessibles, mais dans les pays de l'Est, elles le sont.
En Bulgarie, notamment.
Notamment en Bulgarie, et en fait, on ne trouve rien.
La filière bulgare, vous n'y croyez pas ?
En ayant regardé de très près, et j'explique dans le livre l'ensemble des éléments à charge et à décharge, on arrive quand même à la conclusion que c'est extrêmement improbable. C'est-à-dire que une telle opération aurait laissé beaucoup de traces dans la bureaucratie des pays de l'Est et on ne trouve rien et les personnes censément impliquées côté bulgare n'ont pas la carrure pour ce genre d'opération.
Donc ces jeunes Turcs, tireurs isolés ?
Alors en creusant justement, je suis arrivé à la conclusion qui est que, comme pour paraphraser Sherlock Holmes, une fois qu'on a éliminé tous les possibles, il reste l'impossible. Il faut savoir que Ali Aksa était un membre des Loups Gris, qui était une structure à la fois mafieuse, trafiquante,
on a raconté leur histoire,
d'extrême droite, mais qui travaillait beaucoup avec la mafia italienne. Et donc, il y a une hypothèse qui se dessine au cours de mon enquête, je n'ai pas le temps de tout détailler ici, c'est que la mafia italienne a passé une commande non pas pour assassiner Jean-Paul II, ça n'avait aucun intérêt pour eux, mais pour lui donner un dernier avertissement, de dire « Vous avez embourbé plus de 700 millions de dollars de notre argent, vous nous le devez, vous devez rembourser, arrêtez de faire la sourde oreille, ça pourrait très mal finir. » Et donc c'est une hypothèse, je n'ai pas le smoking gun, je n'ai pas la preuve, parce que la mafia italienne et les loups gris ne laissent pas des archives bien propres, bien rangées, mais en tout cas c'est une hypothèse qui peut être sérieusement considérée.
Alors cette loge P2, je rappelle, hein, loge maçonnique sauvage, il y a des loges comme ça qui ne sont pas reconnues par le siège ici ou là de certaines obédiences. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une loge maçonnique classique, ce sont des personnages tordus, quel pouvoir ils ont?
Alors Licio Gelli, qui est son fondateur, après on peut se demander s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Licio Gelli qui n'apparaît jamais et qui pourrait être un grand parrain de la politique italienne. On pourrait imaginer un nom en tout cas.
Celui qui est resté pendant plusieurs décennies à la tête du gouvernement, par exemple.
Par exemple, qui aurait été longtemps ministre, sénateur à vie et qui se prénommerait Giulio.
Allez, on lit Andreotti.
Giulio Andreotti, absolument. En tout cas, l'hypothèse a été posée, mais là encore, on n'a pas la preuve et on ne l'aura sans doute jamais. En tout cas, Licio Gelli, c'est un ancien fasciste. Hein. Il a été dans le dernier carré de la République de Salo, donc c'était pas un tendre. Il fait des affaires après la guerre, il ouvre une société de vente de matelas, Permaflex, qui, sur intervention de Giulio Andreotti, obtient miraculeusement le marché de fourniture de tout l'OTAN, toutes les forces de l'OTAN en Europe. Ça fait beaucoup de matelas, donc il devient assez vite très riche, et il grimpe dans les affaires et dans dans la haute société italienne. Et donc, il va créer cette loge P2 qui a pour particularité de ne recruter que des généraux, des chefs de services secrets, des cardinaux, des grands patrons, des hommes politiques de tout premier plan, bref, la crème de la crème, avec comme règle une obligation absolue d'entraide et d'obéissance. Et sur chaque membre de P2 qui est recruté, un dossier avec tout ce qu'il peut y avoir de compromettant sur chaque personne. Donc ça, c'est en quelque sorte un groupe mafioso-affairiste qui n'a effectivement plus grand-chose à voir avec ce qu'est la franc-maçonnerie fondamentalement, mais qui a pour but ultime d'imposer un pouvoir autoritaire en Italie. À l'époque, effectivement, on est dans les années de plomb, les années 70. Vous l'avez déjà raconté, de nombreux attentats imputés à l'extrême gauche, en réalité effectués par l'extrême droite, parfois avec le soutien de la CIA. Tout ça dans le but de créer la terreur et d'imposer un pouvoir autoritaire.
Absolument. Merci infiniment, Yvonique de Noël. Vous savez comment on dit matelas au pluriel en italien?
Non.
Materazzi, ça va rappeler des mauvais souvenirs de football. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Et affaires sensibles aujourd'hui, le scandale de la Banque Ambrosiano, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.